Chapitre 2.
Chers membres de l'Anaheim Lions Club, entonna l'homme au micro, c'est une rare occasion qui nous est offerte cet après-midi. En effet, le comté d'Orange nous fournit la possibilité d'entendre ainsi que de questionner un agent secret de la brigade des stupéfiants rattaché au bureau du shérif d'Orange County.
Il rayonnait. Ce personnage au complet gaufré rose et à la large cravate en plastique jaune, à la chemise bleue et aux chaussures de simili-cuir. C'était un gros lard, bardé d'âge mûr aussi, et bardé de satisfaction même quand il n'y avait vraiment pas de quoi. À l'observer, l'agent secret sentit monter une nausée.
« Vous remarquerez, s'il vous plaît, poursuivit l'hôte du Lions Club, que cet individu assis à ma droite est tout juste visible. Il est en effet vêtu de ce qu'on nomme un complet brouillé, et qui est le même costume exactement qu'il porte, en fait qu'il doit porter, durant l'exercice de certaines parties, en fait de la plupart, de ses activités quotidiennes en tant que représentant de la loi. Il vous en expliquera lui-même le pourquoi. »
L'assistance, qui reflétait au-delà de toute espérance les qualités de l'hôte, observa l'individu au complet brouillé.
« Cet homme, déclara l'hôte, que nous appellerons Fred, car tel est le nom sous lequel il communique ses rapports, une fois revêtu du complet brouillé, ne peut être identifié ni par la voix, même par quelques techniques d'empreinte vocale, ni par l'apparence. Il offre l'aspect, vous en conviendrez, d'un vague gribouillis et rien de plus. N'ai-je pas raison ? »
Il lâcha un gros sourire. L'assistance, à qui la drôlerie de la chose n'échappait pas, en grimaça aussi quelques-uns. Le complet brouillé était une invention des laboratoires Bell, due à un employé nommé S.A. Powers, qui tomba dessus par hasard. Quelques années auparavant, Powers avait expérimenté quelques substances désinhibitrices affectant les tissus nerveux. Un soir, après s'être administré une intraveineuse, jugée sans danger et légèrement euphorisante, il avait subi une baisse catastrophique de liquide GABA à l'intérieur du cerveau. Subjectivement, il avait alors assisté à une projection de phosphène bariolé sur le mur de sa chambre, un montage toujours plus frénétique de ce que, sur le moment, il considéra comme des toiles abstraites contemporaines. Au cours d'une transe de 6 heures environ, S.A. Powers avait vu des Picasso se chasser l'un l'autre selon un rythme ultra rapide. Puis, ça avait été le tour de Paul Klee, plus de toiles que l'artiste n'en avait peintes durant sa vie. Alors que des Modigliani se succédaient sous ses yeux à la vitesse grand V, Powers avait présumé, on a besoin de théorie pour tout, que les roses plus croix lui projetaient télépathiquement des tableaux, aidés sans doute par un système avancé de micro-relais. Plus tard, Kandinsky se mit à le harceler. Il se rappela que le principal musée de Leningrad se spécialisait dans ce genre d'art moderne et décida que les Soviets essayaient d'entrer télépathiquement en contact avec lui. Au matin, il se rappela qu'une diminution radicale du liquide GABA provoquait normalement une telle apparition de phosphène. Personne n'essayait d'entrer en contact télépathique avec lui, avec ou sans micro-relais. Mais l'incident lui donna l'idée du complet brouillé. À la base, il s'agissait de relier un quartz à un mini-ordinateur dont les mémoires contenaient jusqu'à 1,5 million d'images fragmentaires de la physionomie d'individus divers, hommes, femmes, enfants. Chaque variante encodée était ensuite projetée omnidirectionnellement sur une membrane ultra fine, sorte de linceul assez grand pour envelopper un humain de taille moyenne. À mesure que l'ordinateur parcourait ses mémoires, il programmait chaque couleur d'œil, de cheveux, imaginable, chaque forme de nez, chaque type de dentition, toutes les morphologies osseuses du visage. La membrane affichait à chaque microseconde les caractères physiques projetés, puis passait à la configuration suivante. Afin d'augmenter l'efficacité de son invention, S.A. Powers avait programmé l'ordinateur de manière à randomiser la séquence des traits sélectionnés à l'intérieur de chaque ensemble. Afin de baisser le prix de revient, ça plaisait toujours aux fédéraux, il trouva pour sa membrane un produit dérivé que fabriquait une grosse firme déjà liée à Washington. En toutes circonstances, le porteur du complet brouillé était Monsieur Tout-le-Monde, et chaque combinaison, il entrait jusqu'à 1,5 million de bits dans la programmation de certaines d'entre elles, était affichée en l'espace d'une heure. Toute tentative de description de l'individu, homme ou femme, devenait absurde. Il va sans dire que S.A. Powers avait programmé sa propre morphologie dans l'ordinateur, de manière que ses traits, dissimulés parmi cette permutation frénétique, fissent surface, environ tous les 50 ans d'après ses calculs, et que son portrait put ainsi être recomposé selon la durée de chaque costume. Ce fut ce qu'il trouva de mieux pour prétendre à l'immortalité.
« Et on applaudit le gribouillis !» tonna l'hôte.
Une ovation suivit. À l'abri dans son complet brouillé, Fred, qui était aussi Robert Arctor, gémit et pensa « C'est épouvantable !» Tous les mois, un agent secret des stupéfiants était désigné au hasard pour parler devant une assemblée d'ahuris telle que celle-ci. Aujourd'hui, c'était son tour. Il comprit en examinant son public à quel point il haïssait les Straits. Ils pensaient tous que c'était du tonnerre, cette réunion. Ils souriaient. On leur donnait du spectacle. Peut-être, à cet instant même, les innombrables éléments de son costume venaient-ils d'afficher S.A. Powers.
« Mais redevenons sérieux un moment, » poursuivit l'hôte. « Cet homme !»
Il avait un trou.
« Fred !» fit Bob Arctor.
« S.A. Fred. »«
Fred, c'est ça !»
Revigoré, l'hôte entonna la suite en direction de l'assistance.
« Voyez-vous, la voix de Fred rappelle celle qu'on entend dans les banques drive-in de San Diego. Entièrement programmée et dépourvue de timbre, une voix de robot. Elle ne laisse pas la moindre marque sur nos esprits, et il en va de même lorsqu'il rend compte à ses supérieurs du programme anti-drogue d'Orange County. »
Silence lourd de sens.
Ces agents risquent gros, voyez-vous, car les forces de la drogue, nous le savons bien, ont réussi à s'infiltrer avec une habileté surprenante dans les divers appareils légaux, et ce, à travers tout le pays. En tout cas, il est bien possible qu'ils y soient parvenus selon l'avis de nos meilleurs experts. D'où, pour ces hommes dévoués à leur tâche, la nécessité du complet brouillé.
Légers applaudissements à l'adresse du complet brouillé. Et la foule des regards pleins d'espoir qui s'accroche à Fred, tapis sous sa membrane.
Toutefois, pour remplir sa mission particulière, ajouta l'hôte en conclusion, tandis qu'il s'écartait du micro pour céder la place au gribouillis, Fred ne porte pas cette tenue. Il s'habille comme vous et moi. Enfin, il emprunte la panoplie hippie de ces diverses sous-cultures qu'il sonde infatigablement.
L'hôte fit signe à Fred d'approcher du micro. Fred, Robert Arctor, avait déjà donné 6 fois. Il savait ce qu'il fallait dire et ce qu'il attendait. L'assortiment de questions débile et les divers degrés d'imbécilité opaque. La perte de temps pour lui, la colère qui lui venait, et comme toujours, le sens du dérisoire de la chose qui augmentait à chaque prestation. « Si vous m'aperceviez dans la rue, » commença-t-il, après que les applaudissements furent retombés, « vous vous diriez, encore un de ces camés, de ces bons à rien. Vous éprouveriez de l'aversion et vous passeriez votre chemin. »
Silence.
« Je n'ai pas la même allure que vous. Je ne peux pas me le permettre. Ma vie en dépend. » En réalité, son aspect ne différait pas tellement du leur. Et puis, il se serait habillé de la même façon, boulot ou pas, danger de mort ou pas. Il aimait ce qu'il portait. Ses propos avaient été dans une large mesure rédigés par d'autres et appris par cœur. Il avait le droit de broder un peu, mais chaque agent utilisait le discours modèle. Mis au point 2 ans auparavant par un divisionnaire plein de zèle, le laïus était devenu parole d'évangile. Il attendit, le temps que ça pénètre bien. Je ne commencerai pas en vous expliquant ce que je m'efforce d'accomplir en tant qu'agent secret voué à la poursuite des trafiquants et plus encore à la découverte de la source des drogues, de ces drogues illégales dont ils inondent les rues de nos villes et les préaux de nos écoles d'Orange County. Je commencerai par vous dire...
Il marqua une pause, comme on le lui avait appris durant les cours de relations publiques à l'école.
Ce qui me fait peur. Il mordait à l'hameçon. Tous les yeux étaient écarquillés. La peur qui m'obsède jour et nuit, c'est que nos enfants, les vôtres, les miens... Nouvelle pause. J'en ai 2. Puis, du ton le plus calme, des tout petits en vérité. Là, le ton remonta, avec quelque emphase. Mais pas si jeune qu'il ne puisse être accroché, accroché délibérément, dans un but de profit par ces individus qui aspirent à détruire la société.
Repose.
Nous ne savons pas encore. Plus calme à présent. Qui sont exactement ces hommes? Ces animaux, devrais-je dire, qui ravagent notre jeunesse, comme si nous nous trouvions au cœur de quelque jungle sauvage, d'une terre étrangère, et non de notre patrie. L'identité des fournisseurs de ces poisons, de ces saletés qui brûlent le cerveau de millions d'hommes et de femmes, ou plutôt de ceux qui étaient encore naguère des hommes et des femmes, et qui jour après jour fument, avalent, se piquent, cette identité nous est peu à peu dévoilée. Mais Dieu m'en soit témoin, au bout du compte, nous saurons pour de bon.
Une voix dans l'assistance.
« Rentrez-leur dans le lard !»
Une autre, non moins enthousiaste.
« Emparez-vous des cocos !»
Applaudissements et reprise en chœur. Robert Arctor s'interrompit, les contempla, les Straits, dans leurs costumes de poussa, leurs chaussures de poussa, leurs cravates de poussa.
Il songea, la substance M ne risque pas de leur détruire le cerveau. Ils n'en ont pas.
« Balance-nous la vérité !»
Cette voix-là, une voix féminine, était un peu moins emphatique. Arctor promena son regard sur l'assistance et finit par distinguer une femme entre deux âges, un peu moins grasse que la moyenne de l'assistance, les mains serrées nerveusement.
« Chaque jour, commença Fred, Robert Arctor, enfin ce type, cette maladie lève un lourd tribut. À la fin de chaque jour écoulé, le flot des bénéfices, et quant à la destination de ceux-ci, nous... »
Il s'interrompit. Pas moyen de sortir le reste de la phrase, bien qu'il l'eût répété un million de fois pendant son instruction ou lors d'autres conférences. Le silence tomba sur l'auditoire.
Du reste, la question n'est pas là. Ce ne sont pas les bénéfices. C'est autre chose, ce à quoi on assiste.
Il n'avait rien remarqué, se dit-il, bien qu'il se fût écarté du discours prévu pour se lancer dans l'improvisation, sans l'aide des gars des relations publiques qui restaient planqués au centre civique d'Orange County. Et puis qu'est-ce que ça peut leur faire, songea-t-il. Et alors, qu'est-ce qu'ils y connaissent vraiment? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Les Straits vivent dans leur forteresse bétonnée, protégés par leurs gardiens prêts à ouvrir le feu sur le premier camé qui saute le mur avec une tête d'oreiller vide pour piquer leur pendule électrique, ou leur piano, ou leur rasoir, ou leur chaîne, qu'ils n'ont pas payé de toute façon, parce que le gars doit se procurer sa dose, doit avoir sa merde. Sans ça, peut-être qu'il va crever, crever pour de bon, à cause de la souffrance, de la claque qu'il va prendre s'il est en manque. Mais quand tu vois ça peinard depuis chez toi, et que ton mur est électrifié, et ton gardien armé, pourquoi t'irais t'en faire?
Mettons que vous soyez un diabétique, dit-il, et que vous n'ayez pas l'argent pour un fixe d'insuline. Iriez-vous voler pour vous le procurer? Ou vous laisseriez-vous mourir?
Silence. Une voix de fer blanc résonna dans l'écouteur de son complet brouillé.
Je crois que vous feriez bien de revenir au texte préparé, Fred. Je vous le conseille fortement.
Fred, Robert Arctor, le type, parla dans sa pastille microphonique.
Je l'ai oublié.
Seul son supérieur au QG d'Orange County, donc pas Monsieur F, c'est-à-dire Hank, pouvait l'entendre. Il s'agissait d'un gradé anonyme qu'on lui avait affecté pour cette seule occasion.
« Ouais, »
crissa le souffleur officiel.
« Je vais vous le lire. Répétez après moi, mais débrouillez-vous pour que ça ait l'air naturel. »
Légère hésitation, froissement de page.
« Voyons voir, le flot des bénéfices... Et quant à la destination de ceux-ci, c'est à peu près là que vous vous êtes arrêté.
Je n'arrive pas à encaisser ce truc, fit Arctor.
Nous serons bientôt fixés.
La voix poursuivit comme si de rien n'était.
Et le châtiment suivra de près. Le moment venu, je ne voudrais pas être dans les souliers de ces gens-là.
Savez-vous pourquoi je n'arrive pas à encaisser ça? Parce que c'est précisément ces trucs-là qui poussent les gens vers la drogue.
C'est à cause de ça qu'on dérive et qu'on devient camé, songea-t-il. À cause de conneries de ce genre. C'est pour ça qu'on plaque tout et qu'on se tire, complètement écœuré. Puis il contempla encore son auditoire et comprit que celui-ci ne pensait pas de même. On ne pouvait les toucher qu'avec ce genre de discours. Arctor s'adressait à des débiles, à des arriérés mentaux. Il fallait leur parler comme aux petites classes. P représente la pomme, et la pomme est ronde. M, prononça-t-il à haute voix, représente la substance M. M pour misère, M pour malchance et pour mensonge. Les mensonges de vos amis, les vôtres, les mensonges que chacun fait à chacun. L'abandon et la solitude, la haine et le soupçon. Enfin M pour mort, la mort lente. C'est ainsi que nous... Il marqua une pause. C'est ainsi que nous autres drogués l'appelons. Sa voix se troubla, s'enroua. Vous ne l'ignorez sans doute pas, la mort lente, qui part de la tête et qui descend. Voilà, c'est tout. Il regagna sa chaise et s'assit, dans le silence.
Vous avez foiré,
dit le supérieur souffleur.
Je veux vous voir dans mon bureau à votre retour. Pièce 430.
Oui, dit Arctor. J'ai foiré. Il le contemplait comme s'il venait de pisser sur l'estrade, juste sous leur nez. Mais Arctor ne savait pas au juste ce que cachait leur regard. L'hôte du Lions Club gagna le micro à grandes enjambées.
Avant de s'adresser à vous, Fred a émis le souhait que cette réunion revête la forme d'un débat ouvert et soit simplement précédée d'une courte déclaration liminaire. Je m'aperçois que j'avais omis de vous le mentionner. Eh bien...
Il leva la main droite.
Qui va ouvrir le feu ?
Arctor se releva d'un bond maladroit.
Il semble que Fred ait quelque chose à ajouter.
L'hôte lui fit signe d'approcher. Arctor, tête baissée, vint lentement vers le micro et parla d'une voix nette. Simplement ceci. Ne leur tombez pas dessus une fois qu'ils sont accros. Les toxicos, les junkies. La moitié, la plupart d'entre eux, surtout les filles, ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, ni même qu'ils s'embarquaient. Contentez-vous d'essayer de les empêcher, eux, les gens, n'importe lequel d'entre nous. Empêchez-les de s'accrocher. Il releva la tête un instant.
Voyez-vous, ils font dissoudre quelques barbitos dans un verre de vin. Les pusheurs, je veux dire. Et ils filent le truc à une nana, une mineure, avec 8 ou 10 doses dedans. Alors elle tombe dans les vapes. Et là, il lui injecte un hit mexicain, moitié héroïne, moitié substance M. Sa voix se brisa.
Merci de votre attention. Un homme l'interpella.
Que faire pour les arrêter, monsieur ?
Tuer les pusheurs. Arctor regagna son siège.